des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Seille. Mes amis, il y a des voyages pépères. Mettons que moi, je pas mal à ça que ça ressemble, généralement. Et puis, il y a les voyages un petit peu plus sportifs. Bruno Rodi a choisi cette deuxième formule et c'est Sonia Sarfati, journaliste, qui a relaté dans un bouquin passionnant le récit de ses aventures. Car oui, il s'agit bien plus d'aventures que de voyages en tant que telles. Sonia Sarfati sera des nôtres dans quelques minutes. Et peut-être bien aussi notre globe-trotteur des extrêmes, comme il aime se présenter. On va monter très haut et on va aller très loin, et ce sera excellent pour notre morale, hein, qu'en dites-vous ? Pauvres de nous qui ne mettront pas les pieds dans un aéroport pendant un bon bout de temps. Quoique, hier, je regardais au-dessus de moi dans un couloir aérien, ça circule quand même. Tu te dis, ils viennent d'où ? Ils vont où ? Ils font quoi ? Je ne sais pas, mais ça circule. Quoi d'autre aujourd'hui ? Étiez-vous des fidèles de la série Doctor Who ? Est-ce que je devrais dire « who » ou « où » ? Who ? Bon, étiez-vous des fidèles ? Eh bien, si oui, vous seriez content d'apprendre qu'un Albertain a reproduit la machine du docteur « who » dans laquelle, si on décroche le téléphone, on peut entendre des extraits de livres audio de cette célèbre série. En livre audio, on trouve un choix très large en anglais, mais j'en ai trouvé en français aussi, extraits à l'appui. Et puis sinon, je me suis demandé ce qu'on trouvait en audio de Simone de Beauvoir et je n'ai pas été déçue du voyage. Et puis, il y a aussi aujourd'hui l'ami Faline Beaubier qui va nous faire savoir que la version audio du livre Tempête d'André A. Michaud, lu par elle-même, est en version accessible via le CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, ou encore via le Service québécois du livre adapté. Bon, allez, on va partir en voyage. Allons-y. Avec une reprise, une vieille chanson française, Jacques Dutronc et Françoise Hardy.
Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi ?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois ?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures ? Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours,
et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
J'espère que c'est l'enfumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore ? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins. Ou davantage, pour que je vois votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contraire. trop leur cri en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ses bagages et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Midi et quart, le 30 mai 2003. 50 ans et un jour après Sir Edmund Hillary, je me trouvais à 8848 mètres d'altitude et foulais le sommet du mont Everest. J'avais atteint le toit du monde et je n'avais qu'une pensée, une seule, décamper.
Alors, j'ai au bout du fil Bruno Rodi, homme d'affaires, père de famille, et qu'une angoisse tout d'un coup a amené à combler le vide en voyageant. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et puis, j'ai aussi au bout du fil Sonia Sarfati. Sonia Sarfati, que vous connaissez, qui a longtemps écrit dans les pages de la presse, qui écrit aussi beaucoup, notamment pour les jeunes. Elle va nous dire, mais je pense que c'est à peu près 40 ou 50 bouquins qu'elle a écrit pour la jeunesse, n'est-ce pas, Sonia?
Oui, exactement, une bonne cinquantaine.
Et Sonia Sarfati, bien là, elle a changé de genre et elle s'est fait, j'imagine, au départ l'oreille de Bruno Rodi, cet homme d'affaires avec qui je vais maintenant converser. En fait, je vais converser avec les deux. Cet homme qui est devenu un globe-trotteur, un peu fou quand même, hein? un peu malade dans sa tête, Bruno, pour se lancer genre dans le Tour de France, par exemple, hein.
Bon, sans doute, un peu malade. C'est déjà loin derrière moi. Alors, oui, j'ai dû être un peu fou, là, mais très heureux de l'avoir été.
Bon, on dit souvent, Bruno Rodi, on dit souvent que quand on va pas bien et qu'on se met à voyager comme ça, on change de quai, mais on garde les mêmes valises. Avez-vous vraiment l'impression que vos valises se sont allégées au fur et à mesure des quais que vous avez fréquentés?
Bon, d'un, j'avais pas beaucoup de valises. Je voyageais avec deux petits baluchons, donc c'est pas très, très lourd. Mais j'ai pas compris la première partie de votre question.
Alors, on dit souvent qu'on change de quai, mais on garde les mêmes valises. Autrement dit, là, je parle des valises beaucoup plus psychologiques.
Oui, j'ai compris. Alors, non, je ne pense pas. Dans les faits, je pense que nous sommes qui nous sommes. Évidemment, on évolue, hein, on apprend la vie, comme je dis souvent. Je dis souvent, d'ailleurs, que ça nous prendrait deux vies, une pour l'apprendre et l'autre pour la vivre. Alors, nous tous, je pense que peu importe... qui nous soyons, bien, on évolue, on se développe. Mm-hmm. Alors, moi, ça a été mon chemin. Autres personnes, ça, elles ont fait d'autres choses. Voilà.
Sonia Sarfati, je le disais, on vous connaît comme journaliste et comme autrice. Vous, est-ce que vous avez déjà fait deux fois le tour de la Terre comme M. Rodi?
Dans mes rêves et dans ma tête, oui. Mais dans mes rêves, en fait, je rêvais d'un jour escalader l'Everest. Alors, j'ai fait beaucoup d'escalade de rochers, de glace dans ma jeunesse.
OK.
Et c'est quelque chose que j'aimais. Et aussi, le Tour de France, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'ai fait beaucoup de cyclisme.
C'est vrai?
Et oui. Et quand j'étais petite fille, le Tour de France passait à côté de chez moi, de temps en temps. Alors, j'encourageais les cyclistes et... Quand on m'a dit que Bruno Rodi, les éditions La Presse m'ont contacté pour faire les entrevues et tout ça, mais j'ai tout de suite accroché à ces deux événements-là, le Tour de France et l'Everest. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, j'embarque.
Alors, monsieur Rodi, Bruno, permettez que je vous appelle Bruno.
Bien sûr.
Vous écrivez à un moment donné dans le bouquin qu'il vaut mieux se maintenir dans l'ignorance pour éviter les peurs et les hésitations quand on voyage. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement?
Bien, dans les faits, ce que je voulais dire, et je le maintiens encore, c'est-à-dire que si j'avais lu avant de me rendre dans certains lieux, de visiter certains endroits sur la planète, j'y serais jamais allé, parce que j'aurais eu peur. Alors, mais on peut transposer ça dans la vie. Je pense qu'on ne peut pas regarder les points, seulement les points négatifs d'une situation potentielle qui va peut-être se produire, parce qu'on ne partira jamais. C'est un peu comme dire, pour se rendre quelque part, on va attendre que toutes les lumières soient vertes, mais on ne partira jamais, sinon.
La légende d'Hérodis est née de quelle imagination? Celle de Sonia ou elle existe vraiment, Bruno?
Il faut donner crédit à Sonia qui
est
très imaginative, je dois vous dire. Mais cette légende, et je dois lui donner beaucoup de crédit parce que sans elle, là, il n'y aurait pas eu de bouquin.
Il n'y aurait pas de
bouquin. Elle a beaucoup de talent. Elle m'a bien conduit dans le projet. Ah. Alors, mais cette légende, c'est venu finalement plusieurs années avant. J'avais écrit une petite légende que je me suis dit plus tard, lorsque je vais avoir des petits-enfants, ils vont vouloir me demander « Grand-papa, d'où viens-tu? »
D'où ça vient, voilà.
Alors voilà, donc.
Quelle bonne idée.
Je suis de l'Italie, alors j'ai débuté la légende en Grèce antique.
Oui, à Rhodes.
De la Grèce antique, voilà.
Où vous êtes finalement allé, puis vous avez trouvé que le lieu finalement était un petit peu décevant parce que le colosse n'est plus, le colosse a chuté.
Exact.
Hein, pendant un tremblement de terre. Hein.
Voilà, ou je ne sais pas où j'y étais pas, mais sans doute, ou plusieurs tremblements de terre.
Sonia Sarfati, est-ce que, honnêtement, là, est-ce qu'après avoir rédigé ce bouquin, vous vous êtes dit, il faut que j'aille voir tel lieu, je ne sais pas, je pense au Taj Mahal, par exemple, je pense à Petra, je pense à la pyramide de Khéops qui a tant marqué, la Villa d'Est.
Oui. Oui, non, il y a plein d'endroits que je voudrais voir. Mais en fait, le livre est sorti juste avant que la pandémie commence et tout ça. Alors, ça m'a comme coupé mon élan. Oui. Là, je me disais, je vais faire tel voyage. En fait, le voyage que j'avais envie de faire, et on en avait souvent parlé avec Bruno, j'aurais aimé prendre l'Orient Express.
Ah.
C'est quelque chose dont je rêve depuis que j'ai lu le roman d'Agatha Christie,
oui.
Bien sûr. Alors, c'est... Mais, vous savez, en soi, écrire le livre, pour moi, ça a été vraiment une belle aventure, parce que écrire une biographie entre guillemets, il y a beaucoup de journalistes ou d'auteurs qui vont en faire, mais celui-là, le grand défi, c'était, ils avaient vraiment besoin d'une journaliste pour talonner M. Rodi, pour qu'il me donne qu'il me raconte tout ça, qu'il trouve des anecdotes, et d'une romancière pour raconter cette histoire-là, parce que ça aurait pu être une longue liste d'épiceries.
Exactement.
Il fallait trouver l'aventure dans son aventure.
Oui.
On pouvait pas tout raconter,
non.
Mais il fallait trouver l'essentiel et il fallait trouver des liens entre certains voyages.
Et l'aventure humaine.
J'ai adoré ce défi-là.
Oh,
oui,
bravo, Sonia.
Et
l'aventure humaine, parce que par exemple, Bruno, qui a trois enfants, les enfants ont été, j'allais dire admis, mais bien plus que cela, ont été invités, conviés à participer, notamment avec Jason. Il a vu les plus belles merveilles du monde et puis ensuite avec ses deux filles. Et quand je dis l'aspect humain, par exemple, je pense, moi, à ce passage qui m'a mis les larmes aux yeux. Il est à Madagascar et sur une route, par hasard, il croise le chemin d'un petit garçon. Et ce petit garçon, c'est beaucoup vous-même, Bruno.
Ouais.
Ça vous est vraiment arrivé?
Ça m'est vraiment arrivé et puis j'ai encore raconté cette histoire cette semaine.
C'est vrai. Mais elle est magnifique.
Oui, elle est magnifique, cette histoire. Oui, elle est magnifique. Elle est vraie aussi. Mm. Alors, parce que je me suis reconnu dans ce petit garçon, finalement, qui est complètement une autre culture que la mienne. Mais les humains, vous savez, d'une culture à une autre, on vibre avec les mêmes émotions.
Fou, hein? On n'a pas juste nos deux jambes et nos deux bras et nos yeux et tout ça en commun. On a bien plus que cela, finalement.
Nous sommes la même espèce, certainement. Oui.
Si on fait le tour assez rapidement, Sonia et, bon, et Bruno, vous avez grimpé les plus hauts sommets, vous avez franchi les deux pôles, vous avez fait le Tour de France. Alors ça, excusez-moi, mais alors là, ça me tue complètement. Parce que quand je pense à l'Alpe d'Huez et à toutes ces montées épouvantables, je me dis, mais non, de vous à moi, Bruno. Vous aviez mis un petit moteur sous les pédales, c'est pas possible.
Malheureusement, non, j'ai pas un matin.
et je me disais, aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs, quand vous êtes coincé dans un bouchon de circulation, vous repensez à tout cela, tu sais, quand vous êtes dans les émanations de gaz, là, que vous êtes coincé, parce qu'il faut voir toutes les photos, puis effectivement, comment c'est raconté par Sonia, tous les moments bouleversants, on les sent, tous les moments d'émotion, on les sent, tous les moments de tous les échanges. Et là, je me dis, il me semble que ces deux-là, une pour l'avoir écrit et l'autre pour l'avoir vécu, il me semble que, tu sais, je me retrouve dans la vie plate, dans un bouchon de circulation, à quoi je pense en premier? Quelle est l'image qui me revient en premier? Sonia, vous? Oui?
Oui, allez-y.
Sonia, dans toutes les images qu'il vous a fait partager,
ouais.
En dehors de l'Everest où vous aimeriez pouvoir monter
ouais,
un jour.
Oui, oui, oui.
Oui, mais lui, par contre, il voulait en partir, lui, à peine arrivé.
Oui, c'est ça. Et en même temps, je peux comprendre, j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur l'Everest.
Oui.
Alors, donc, tout ce qui a été écrit dans le livre est vrai, j'ai rien inventé, mais au niveau des émotions, j'allais vraiment puiser dans des choses. J'ai tellement lu et vu sur ces sujets-là. En fait, les deux sujets que je maîtrisais, c'était l'Everest et le Tour de France.
Oui,
alors,
oui.
J'étais vraiment dedans. Oui. Puis, vous savez, quand on est écrivain, autrice, on est comme un acteur, finalement, mais on acte derrière notre clavier.
Oui.
Et j'étais vraiment dedans. Et donc, c'est vraiment ces moments-là. C'est aussi les moments de rapprochement avec ses enfants. Je suis mère des deux garçons, j'ai un petit-fils et tout ça, ces moments-là, pour moi, c'était un grand, grand bonheur de les écrire et de transposer un peu ce que moi, je sais pour Bruno. Bruno qui, après, lisait et me disait non, ça serait pas comme... Parce que des fois, je pouvais un peu m'éloigner et écrire trop Sonia Sarfati, pas assez Bruno Rodi, on n'est pas la même personne. Alors, lui revoyait tout ça pour que ça reste à 100% lui.
Je vous proposerais tous les deux qu'on écoute un court extrait de ce livre lu par Pierre Corriveau et qui, je dois maintenant le préciser, existe en livre audio dans notre catalogue livreaudio.vusezvoix.com. On en écoute un extrait.
J'ai donc atteint le sommet le plus élevé de chaque continent, dont l'Everest. Skier jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud. Pédaler sur un parcours du Tour de France et participer au rallye Dakar. Descendu les plus grandes rivières et traversé des déserts immenses. Je me suis rendu aux sources du Nil. J'ai visité l'île de Robinson Crusoe, etc. Si j'avais pensé le voyage dans ses moindres détails, je ne l'aurais probablement même pas commencé. C'était énorme et pouvait devenir tentaculaire et sans fin. Alors que les listes de l'UNESCO continuent de s'allonger entre les sites physiques et culturels, on parle en ce moment de plus de 1600 destinations et qu'il faut bien être réaliste. J'ai décidé, arrivé à un certain point et à un certain âge, je dois admettre qu'à moins d'une exception, je ne retournerai pas dans un coin déjà exploré. Je devais donc couvrir tous les sites pertinents dans chaque région au moment où je m'y trouvais.
Et c'est ce qui rend ce voyage d'autant plus agréable à lire, quoi. C'est que moi, combien de fois j'aurais voulu être au milieu de la photo? Hein, Sonia, vous aussi,
oh,
non?
Oui.
Hein?
Oui, non, tout à fait. Oui.
Vous avez en commun, alors, quelque chose aussi, c'est la nature. Vous avez tous les deux un profond amour, une passion pour la nature et pour sa protection. Je voudrais, si vous me le permettez, citer quelques mots de Sonia à ce sujet. Nous sommes en page 256. Vous écrivez, Sonia... Des pyramides aux cathédrales, des châteaux forts aux gratte-ciel, des mausolées aux grands musées, les accomplissements de l'homme m'impressionnent toujours. Je l'ai mentionné à quelques reprises déjà, Mais l'œuvre de l'être humain est généralement calculée. Elle cache souvent des motifs. Elle existe pour quelqu'un, pour quelque chose. L'œuvre de la nature, elle, est brute, sauvage, libre d'intention, désintéressée. Elle est, virgule, point. C'est du grand Sarfati, ça, Madame Sonia.
Vous m'avez reconnue,
hein. Non, mais c'est parce que du coup, vous avez côtoyé le très beau, on s'entend, Bruno Rodi, mais vous avez vu aussi le très laid. Vous avez vu à quel point cette belle planète bleue, elle est maganée, même si on sait qu'elle nous survivra. C'est terrible. Vous avez assisté à des choses, j'imagine, des photos qui ne sont pas dans le bouquin, mais qu'on peut imaginer derrière la pureté de certaines images.
Oui, on voit certainement que l'on fait pas du bien à la planète, c'est certain. Mm. Comme on disait à la fin du livre, dans les faits, il faudrait en prendre soin parce que c'est le seul vaisseau qu'on a.
Ouais, absolument.
Donc, si on perd celui-ci, on n'a pas un deuxième de rechange. Mm. Puis la route vers la planète Mars est encore assez loin.
Oui, certes.
Voilà, oui.
Il y a un de vos titres, Sonia, parce que j'imagine que c'est à vous aussi, ça. Indiana Jones, un héros? Réponse de M. Roby? Est-ce que Indiana Jones a été un héros? Est-ce qu'il a pu provoquer aussi en vous ce désir d'aller visiter tous ces endroits magiques?
Oui, je vois, comme je vous disais en début de conversation, dans les faits, on lit des Tintins, des Bob Marley, des
Tintin oui.
Savage. Indiana Jones et tous les autres oui. qui vont arriver, qui ne sont pas encore là. Donc, tout peut nous faire rêver si on se laisse aller un peu. Alors, un beau film qu'on a vu, une destination, on aimerait aller à tel endroit. Mmh. Alors, tout ça a contribué un peu, à quel degré, je ne sais pas, à démarrer ce projet. Mais comme je dis en début du bouquin, à un moment donné, je pense que ça nous arrive à tous, c'est lorsqu'on a l'impression d'avoir fait le tour de ce qu'on fait, ben on a envie d'autres choses, et on veut le remplir. Alors, est-ce que c'est question d'âge? Je ne le sais pas, et je m'en fous dans les faits.
j'aime.
Donc, quelle est la
mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends.
Très satisfait. J'aurais été déçu de ne pas l'avoir fait, me connaissant. Aujourd'hui, j'en suis satisfait. D'ailleurs, Sonia le sait, je lui dis, je suis satisfait apaisé. Si je peux
dire, hein?
Serein.
Oui, c'est ça.
À ce point-là.
Oui.
C'est un voyage en soi que d'écrire un tel bouquin, un tel voyage qu'on n'a pas fait soi-même, hein, Sonia Sarfati.
Oui, j'avoue. Mais bon, Bruno me fournissait beaucoup de photos. On a dû faire un choix, bien sûr, mais il en a des milliers et des milliers. Des films aussi, des petits films. Donc, ça m'aidait à me plonger. Mais je pense que vraiment, l'autrice en moi a pris le relais de temps en temps. Et c'est pour ça que c'était vraiment important là, d'avoir l'information, mais de l'incarner, de donner de l'émotion pour que les gens vive un voyage. Et comme je disais tout à l'heure, pas une liste d'épiceries parce que ça aurait pu être ça. Il est allé dans tous les pays, dans tous les territoires et tout. Il fallait faire un choix. Il fallait vraiment tracer la courte pointe pour faire quelque chose que les gens aimeraient.
Exactement.
Exactement. Qu'ils partent en voyage avec nous.
Ça.
Et je pense que la période est tellement bonne pour lire.
Mais oui.
Pour lire
pourquoi pensez-vous que je vous ai invité?
Raison,
Sonia.
Alors,
il faut rêver.
On va se quitter bientôt. Je rappelle à nos auditeurs que je parle de ce livre Globetrotter des extrêmes. C'est un récit biographique de Sonia Sarfati qui concerne l'extrême voyage de Bruno Rodi. Qui sait, ça s'est étendu sur combien d'années, Bruno Rodi, cette visite d'à peu près?
Plus ou moins, je pense qu'on mentionne 17 années. Ans, dans le bon, ouais. 17-20 ans, la génération d'aller faire. Je suis en train de me mettre au diapason de la nouvelle génération.
Oui. J'ai...
Alors, et vos auditeurs, oui, ils devraient l'acheter puisqu'on donne tout à la société Alzheimer. Alors, ils vont,
ah, oui.
ils vont faire un don en même temps.
En même temps. Merci de l'avoir précisé. J'ai une dernière question pour vous deux. Vous l'entendez aussi à mon accent. Je suis française d'origine. Je suis ici depuis plus de 35 ans et je découvre encore des coins du Québec et je trouve que nous habitons un pays. Quand je parle du pays, je parle de la province, mais le pays aussi en général, mais je ne le connais pas beaucoup. Absolument extraordinaire. Vous connaissez vous-même très bien votre province, tous les deux? Vous avez voyagé beaucoup au Québec?
Bon, je vais laisser Sonia parler.
moi, écoutez, pendant longtemps, j'ai tellement fait de tournées dans les écoles pour parler de mes livres, alors je suis allée un peu partout. Je connais très bien le Québec et je dirais, je connais très bien le Canada, en fait.
Bon, bravo. Je suis contente parce qu'on a tellement de merveilles ici, quoi.
Ah, oui.
Bon, elles sont peut-être pas protégées, etc. Mais oh, quel beau pays. Alors donc
mais
vous.
Je pense que Bruno adore le Canada aussi.
Oui,
là, quand
ben
on
oui,
lui dit
j'adore.
Quel est l'endroit.
J'adore. Ben oui, de toute façon, c'est un homme de terre et c'est un homme de nature. On va se laisser avec quelques notes d'une chanson qui, Voyage, Voyage, Désirless, que j'ai toujours adorée. Et voilà, et En haut des volcans, tout ça, je trouve que c'est tellement vous. Bruno Rodi et Sonia Sarfati, merci beaucoup pour ce récit Globetrotter des extrêmes. Merci d'avoir accepté.
Merci Clotilde.
Au revoir. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. D'abord, laissez-moi saluer les auditeurs de Canal M, mais également les auditeurs de CKVL qui nous écoutent à chaque semaine. Et ça fait plaisir de pouvoir m'adresser comme ça à tous ces gens qui sont peut-être ou qui deviendront sans doute des passionnés du livre audio, puisque cette émission est consacrée au livre audio. Alors, dans cette seconde partie, tout un tas de livres audio vous seront suggérés, des livres qu'on retrouve sur des plateformes de livres audio commerciales ou encore sur des plateformes de livres accessibles aux personnes qui présentent des difficultés à lire des imprimés, notamment. Faline Bobier du CAEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques, va nous présenter un bouquin de science-fiction, un autre de suspense et un dernier, si le temps nous le permet, sur un chien pas mal extraordinaire. Pour ma part, je me suis intéressée au fameux docteur, le docteur Who, en livre audio et à l'œuvre de Simone de Beauvoir, également à écouter par les oreilles. Mais tout de suite, on va retrouver Faline Bobier. Salut, Faline.
Bonjour Clotilde, ça va?
Ça va très très bien, je vous remercie. La forme est bonne, la santé aussi. On vient de voyager pendant toute la première demi-heure, alors nous qui sommes coincés au sol comme ça, c'était bien agréable. dites-moi d'ailleurs, parlant de voyage, dans le premier livre que vous voulez nous présenter, il s'agit d'un grand et long voyage aussi.
Oui, c'est vrai. Le livre, c'est Oshima. C'est écrit par Serge Lamotte, qui est romancier, poète, dramaturge québécois. Donc, c'est l'histoire d'un jeune Eurasien qui habite à Paris au début du livre. Et c'est vraiment l'histoire. Donc, c'est une œuvre de science-fiction. Qu'est-ce qu'on dit? Ça se passe, l'année, c'est 2043, et c'est vraiment l'écroulement, si vous voulez, de la civilisation. Il y a déjà de graves pénuries, une crise sociale, mais le pire reste à venir, c'est l'effondrement global des réseaux qui paralysent Internet et tous les systèmes électriques ou électroniques.
Et on peut imaginer les dégâts que ça peut faire, parce que déjà, quand on a une panne d'Internet, c'est comme « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?»
Alors... Et donc, le jeune, il décide, c'est plutôt qu'il est appelé par son père, qui est mourant, de revenir à l'île japonaise d'Oshima, d'où il vient. Donc, si vous voulez, comme vous avez dit, c'est vraiment, ça mélange, c'est un peu un mélange d'un roman d'aventure, récit de voyage, œuvre de science-fiction en même temps. Donc, très intéressant. Je pense qu'on l'a appelé dans le journal La Presse une grande épopée.
J'imagine que ça doit être une sérieuse brique. Hein. Ça doit être assez, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer un petit livre, petite plaquette. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de pages dans ce bouquin-là.
Ouais, il y a 300 pages à peu près.
Ah, pas plus que ça. Ben, je sais pas, parce que moi, je pense épopée, je pense tout de suite 1200 pages. Moi, j'aime ça.
Mais je pense que c'est surtout le voyage qui fait.
Bien sûr, je blague. On va en écouter un petit extrait, Faline.
Ok, très
bien. Amandine m'avait plusieurs fois déconseillé d'entreprendre ce voyage, mais je l'ai abandonné comme elle a quitté mon père il y a 20 ans, sans lui laisser le choix. Une décision unilatérale dont je connaissais les conséquences pour les avoir observées chez elle. Des regrets pour une vie. Il n'y aurait plus autant de grâce dans les vols des oiseaux, ni de beauté dans le reflet des saules sur l'eau de l'étang. C'était quelque chose qui changerait à jamais la couleur du ciel. Quand je le regardais, il serait chaque jour un peu moins lumineux, jusqu'à ressembler au couvercle d'acier rouillé qui me recouvre désormais, sans que cela ait quelque chose à voir avec la pollution ou les tempêtes de gaz. Tout a commencé lorsque la lettre d'oncle Kiyo Haru nous est parvenue dans le 12e arrondissement de Paris. Le message de Kiyo-san était laconique mais précis. Père mourant vous demande. Les caractères élégants étaient calligraphiés sur la page d'un vieux journal. Malgré l'indéniable maîtrise et la perfection des traits, je pouvais deviner que la main du vieillard avait tremblé en écrivant ces mots funestes. Au dos figurait une mauvaise reproduction d'une célèbre estampe d'Okusei. L'une des 36 vues du mont Fuji, celle qu'on appelle tantôt le Fuji rouge, tantôt le Fuji par temps clair.
Alors, on va rappeler le titre, ça s'appelle Oshima, c'est de l'auteur québécois Serge Lamotte, un bouquin de science-fiction bien passionnant sur les traces, on s'en va au Japon, hein, sur une île japonaise. Alors, Faline Bobier, on continue avec vous, avec un livre, oui, honnêtement, dont j'avais déjà parlé, avec même l'auteur, et dont l'autrice, je devrais dire, et la lectrice de ce livre, mais je me disais, ça me fait tellement plaisir de savoir que via les bibliothèques, tout un chacun peut se procurer ce bouquin, que je me suis dit, oui, on va en reparler avec Faline, il s'agit de Tempête.
Oui, j'adorais. Je ne connaissais pas André Michaud avant d'avoir lu Bondray.
Oui, oui.
Il a gagné, le prix du gouverneur général en 2014.
Absolument.
Et ça me faisait vraiment penser... Je vais juste citer un peu, parce qu'en parlant de ce livre, Tempête, elle a dit « La folie me fascine. J'aime m'interroger sur la folie des êtres humains, sur ce qui peut nous pousser à poser des gestes impardonnables, sur cette folie qui s'installe peu à peu à cause de petits éléments dans l'environnement qui brouillent tout à coup nos repères et nous font perdre pied. Mmh. Alors, et ça me faisait penser beaucoup à l'auteur britannique qui est décédé maintenant, mais Ruth Rendell, parce que Ruth Rendell, elle a écrit des romans policiers plutôt traditionnels avec son inspecteur, mais elle a aussi écrit une série de livres plutôt psychologiques où elle entre vraiment dans la peau du personnage sociopathe. Mm-hmm. Donc j'ai trouvé ça, quand j'ai lu Bondré, ça me faisait penser à ça parce que c'est vraiment, vous entrez dans un autre monde
absolument.
Complètement... vous perdez un peu, vous perdez les pédales, non?
Oui, absolument. Et je me souviens bien d'ailleurs, Madame Michaud, parce que quand on la voit, on a plus l'impression que c'est une femme qui va y aller dans l'intellect, dans... Je lui disais, mais moi je m'attendais un petit peu à ça, mais non, c'est un bouquin, bon, qui est évidemment très bien écrit, ça c'est certain, mais qui fait peur. Ah ben elle me dit, oui. C'est ce que je voulais. C'était drôle parce que elle me dit, mais c'est exactement ce que je voulais. Ben je lui dis, mais bravo, parce que c'est vrai, il me semble que j'avais lu dans la presse, je me souviens plus sous la plume de qui, et je m'en excuse, qui disait que c'est un livre qui, une fois qu'on le refermait, on s'en souvenait longtemps, parce qu'au niveau de l'ambiance, hein, nous sommes près d'une montagne sombre, je dirais à l'ombre d'une montagne, avec un camping apeurant, avec cette maison abandonnée dans laquelle va aller cette femme. En tout cas, c'est... Ouh, mais quelle écriture! Oui. Et c'est elle qui le lit, hein?
Je ne savais pas, alors il va falloir que j'écoute.
Oui, c'est ça, c'est elle qui le lit et ça avait été lu ici, chez Vues et Voix, Fanine. Voilà.
Non, mais elle parle aussi de cette idée de... C'est-à-dire, elle dit, quand on est tout petit, on aime avoir peur, ouais. Sans qu'on sait que cette peur ne repose que sur des fantasmes. Donc, elle a dit, c'est un peu sur ce genre de peur que je travaille dans Tempête. C'est la peur des manifestations qui nous échappent, qu'on ne peut pas comprendre. Alors, je trouvais que c'était très juste comme description, comme vous avez dit, description de l'effet.
Absolument. Et on a un extrait, et c'est donc la voix d'Andréa Michaud, et je trouve que c'était la voix qu'il fallait pour sous-tendre ces mots-là de la façon dont elle vient et dont vous venez d'en parler.
L'homme était là, debout derrière la maison, qui m'épiait depuis 3 jours. Ou peut-être n'était-ce qu'une ombre, un arbre figé dans la tempête, auquel mon épuisement donnait forme humaine. J'avais pourtant la certitude qu'il se rapprochait, que chaque nuit, il faisait quelques pas de plus, quittant peu à peu le couvert de la forêt pour l'espace dégagé qui s'ouvrait devant le hangar. Une autre que moi aurait peut-être tenté d'aller à sa rencontre, mais j'étais tétanisée par son immobilité, par son immuable silence. Un homme de pierre ou de bois qui demeurait indifférent à mes supplications et à mes injures, au cri que je lançais depuis le pas de la porte pour lui demander de s'en aller, de sacrer son camp, de me ficher la paix. Va donc chez le diable, hostie de malade! Quand mes hurlements frôlaient ainsi l'hystérie, j'étais persuadée qu'il s'amusait, que son visage masqué par l'obscurité s'éclairait du sourire de l'homme qui vous est pris au piège et qui prend tout son temps, pas à pas, pour vous rendre folle. Sitôt la porte refermée, je la bloquais avec un fauteuil, le fauteuil de Franck, et m'assoyais près de la baie vitrée, une hache à mes pieds, sur la lame de laquelle je voyais son sourire se refléter. Un homme de pierre ou de bois qui voulait ma perte, ou la sienne, lorsque mes nerfs lâcheraient et que j'abattrais la hache sur son crâne enneigé.
Ah, quelle voix, hein?
Oui, c'est la voix parfaite pour l'air.
Oui, absolument. Alors, c'est la voix que vous venez d'entendre d'Andréa Michaud, autrice et lectrice de Tempête, disponible via toutes les bibliothèques grâce à CAEB, le centre d'accès,
équitable.
Voilà. Oh, bien, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'une petite minute, mais on n'aura peut-être pas d'extrait, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de votre troisième choix, parce que ça n'avait rien à voir avec les deux autres. On parle d'une œuvre documentaire, c'est bien ça?
Oui, c'est écrit par Dean Arkunz, qui est lui aussi maître du genre d'horreur. Mais dans ce livre, comme vous avez dit, c'est une œuvre documentaire où il parle de son chien, Trixie. Il a vécu avec ce chien pendant 12 ans, mm-hmm. un Golden Retriever. Mm-hmm. Et il dit que quand lui et sa femme, quand ils ont adopté le chien, c'était comme s'ils accueillaient dans leur foyer l'enfant qu'ils n'ont jamais eu.
C'est souvent le cas.
C'est intéressant parce que le chien a été formé d'abord pour l'assistance des personnes handicapées. Donc, a reçu un entraînement vraiment exceptionnel qui en a fait un compagnon un peu hors de l'ordinaire. Donc, c'est vraiment l'histoire de leur vie avec leur chien. Et il écrit avec beaucoup d'émotion, mais c'est complètement différent de ce qu'il écrit normalement.
Normalement. Alors, ça s'appelle oui. Un chien en or par Dean R. Kuntz, oui, Animaux et faune, œuvre documentaire. Merci beaucoup, Faline. Encore une fois, un choix varié. J'aime beaucoup ça. Il y a de tout et pour tous les goûts. Si vous voulez avoir peur, si vous voulez vous donner le sourire avec ce chien ou si vous voulez faire un voyage au Japon, voilà, vous avez le choix. C'est ça l'émission des livres plein les oreilles. C'est de nous donner toutes sortes d'envies comme ça.
Et maintenant, je vais bien sûr écouter le livre.
D'accord. D'accord.
Michaud,
oui. OK, Faline. Merci. Passez une belle fin de journée.
Oui, vous aussi.
À la prochaine. Salut.
À la prochaine. Bye-bye.
Quiz. C'est dommage hein, que je ne puisse pas vous entendre en direct, auditeur de CKVL ou encore de Canal M et tous les amis qui nous écoutent en balado et en podcast. Mais si je vous demandais, si vous étiez là par exemple, hein, un coup que, on dirait que, vous étiez ici en studio, c'était la musique de quoi que l'on vient d'entendre? Eh bien, c'était une des musiques, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs thèmes, mais là, c'était la 13e série, me semble-t-il, de Doctor Who, celui qu'on me dit, qu'on appelle beaucoup plus simplement le Docteur. Êtes-vous des passionnés de ce Docteur ou pas? Ou êtes-vous comme moi, complètement néophyte? Et découvrez-vous, en vous demandant de quelle planète vous arrivez, qu'il y a une série qui a duré des années et des années, qui dure encore, d'ailleurs, j'ai l'impression, avec ce fameux docteur, un docteur dont est profondément tombé amoureux, un Albertain qui habite une petite ville en Alberta qui s'appelle Brooks. Et cet Albertain, d'après ce qu'on nous dit dans un article que j'ai puisé dans l'excellente revue Actualité, cet Albertain a construit dans une rue de Brooks une réplique de TARDIS. J'imagine que ça se prononce en français comme ça, qui est la machine du célèbre docteur. Alors, au détour d'une rue, si vous allez en Alberta, si vous allez à Brooks, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous tombiez sur une cabine téléphonique, pas comme les autres, Ce fan a construit la réplique exacte du fameux TARDIS, cette cabine téléphonique qui voyage dans le temps et qui est donc tirée de cette série télévisée de science-fiction britannique. La première chose, a dit Brad Alexander, quand on lui a demandé si ça avait été compliqué de reproduire TARDIS, il a dit « la chose la plus difficile, ça a été de convaincre ma femme ». Je vois, sa femme a dit « t'es complètement malade ». Il dit « ça, c'était la partie la plus difficile de la construction, mais après, tout s'est bien fait ». Alors, il avoue candidement qu'au départ, ses voisins lui ont lancé quelques regards intrigués. On se demandait bien ce qu'il fabriquait avec cette grosse boîte, à quoi allait servir cette peinture bleue. Et puis, les panneaux de police ont vite éclairci le mystère. Alors, après des mois de travail quand même, cette réplique grandeur nature de TARDIS pour, je ne vous le dirai pas en anglais parce que je n'y parviendrai pas, mais donc cette boîte grandeur nature était née. Est-ce que tu pourrais le dire, toi, en anglais ? Non. Ok, non, regarde, oublie ça. C'est parce que, bon, en tout cas, à moins que je le francise beaucoup, mais « Time and Relative Dimension in Space », en gros. On va dire ça de même. On s'est compris. Alors, et c'est un projet qui a été dûment autorisé par la ville de Brooks et le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada. Mais en plus, ce TARDIS, Albertin, ne fait pas que de la figuration. Il n'est pas juste là, planté entre deux arbres. Pas du tout, mes amis. Derrière une porte se cache un vieux téléphone. Et si vous osez décrocher, eh bien, le téléphone vous lira des épisodes des livres audio de ce docteur. Avec en plus une lumière bleu-violet clignotante à l'intérieur de la cabine qui fait également apparemment beaucoup son effet sur les curieux qui se baladent là. Alors il a affirmé qu'il reçoit énormément de compliments de la part de communautés, de gens, de fans et que les retours sont vraiment très très bons. Il y a même un livre d'or qui va y être installé pour garder une trace de tous ces visiteurs qui y passent, touristes en vadrouille ou encore des visiteurs locaux. Alors ne cherchez plus. Parce que la première machine à voyager dans le temps de l'Alberta, eh bien, se trouve à l'angle de la 3e avenue Ouest et de la 7e rue Ouest à Brooks. Vous me connaissez, du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir du Dr Who en livre audio ? Bon, c'est beaucoup en anglais quand même, ça je peux pas vous le cacher, mais d'abord je me dis qu'il y a peut-être plein de gens qui écoutent des livres audio en anglais, alors ne vous gênez pas, ils sont quasiment tous là. Mais en français, j'en ai au moins trouvé un qui s'appelle Apollo 23, Doctor Who, Apollo 23, et c'est lu par Arnaud Le Ridan, ça a été produit à l'époque par Ardigan.
Il resta planté là, regardant Mandy. Du moins, elle imagina qu'il la regardait. Elle ne pouvait pas voir son visage, car le casque était couvert d'un film doré qui reflétait la file d'attente derrière elle. L'astronaute avança maladroitement, gêné par sa combinaison spatiale. Il alla droit vers Mandy, la démarche raide, vacillant d'un côté et de l'autre. Ses jambes ne semblaient pas pouvoir se plier suffisamment pour lui permettre de marcher correctement. Quand il fut si près d'elle qu'elle aurait pu le toucher, l'homme de l'espace s'arrêta. Il y avait des traces de fine poussière grise derrière lui, la même qui couvrait ses grandes bottes. Les empreintes s'arrêtaient devant le panneau du menu, comme s'il était réellement apparu à cet endroit.
« Ce doit être un truc publicitaire, » dit quelqu'un derrière Mandy.
« Ouais, il vend quelque chose, » ajouta un homme.
« Il va nous annoncer qu'il vient de manger la meilleure pizza de tout le système solaire, ou un truc dans ce genre. »
La file d'attente n'en était plus vraiment une, puisque tout le monde s'était attroupé autour de l'homme de l'espace. Des gens arrivaient même des autres fast-foods, et les clients de la galerie au-dessus regardaient aussi, riant et pointant du doigt.
Alors, c'est un livre, vous l'aurez compris, de science-fiction. Il y a cet astronaute qui arrive dans cette petite ville et il y a plein de gens qui pensent que c'est un coup de pub. Et puis, finalement, il y en a même d'autres qui se disent que c'est un canular. Mais le fameux docteur et Amy découvrent vite que tout cela fait partie d'un plan sinistre pour s'emparer de tous les humains de la Terre, rien de moins. Alors, un complot est fomenté depuis une base militaire secrète sur la Lune où malheureusement, se trouve aussi Amy et le TARDIS, tandis que le docteur, lui, est coincé sur la Terre. Mais il y a peut-être un moyen de sauver la situation. On imagine bien que c'est un happy end. Alors, Doctor Who Apollo 23, disponible en livre audio sur les plateformes de livres commerciales. Tiens, si on parlait de Simone de Beauvoir. J'ai eu envie d'aller voir ce qui existait en audio parce que je suis tombée encore une fois dans actualité.com sur un papier. Malheureusement, on a rarement les noms des gens qui signent ces papiers dans cette revue virtuelle littéraire. Et on nous fait découvrir Julia Korbic qui découvre Simone de Beauvoir pendant ses années de collège. Alors qu'entre autres, elle doit faire un exposé sur Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui, on le sait, va vivre aux côtés de Simone pendant des années et des années. Alors impossible de passer à côté de cette femme qui a l'air assez sévère, assez austère même sur certaines photos, souvent coiffée de ce ruban hein, qu'on imagine bien. C'est accessible, oui, faut pas penser qu'on est là dans la grande philosophie, nous dit-on. C'est accessible en étant en tant qu'ado, en tant qu'adulte, que vous vous y connaissiez en philo ou pas du tout, que vous ayez déjà lu du Simone de Beauvoir ou pas du tout. C'est un livre qui est découpé en plusieurs parties, qui s'appelle « Devenir, aimer, penser, écrire, agir, lutter ». Ça me rappelle... Marie Laberge, j'avais fait un livre comme ça il y a quelques années, je l'avais même invitée à cette émission-là. Alors voilà, donc chaque partie se focalise sur un aspect de la vie de Simone de Beauvoir. On ne peut pas parler d'une biographie chronologique classique et c'est un bon point apparemment. Mais là où c'est vraiment bien fait, c'est qu'apparemment l'autrice ne la mystifie pas. Si Simone de Beauvoir a écrit des textes effectivement importants et si elle fut une voix majeure des luttes féministes de l'époque, eh bien aujourd'hui, peut-on lire dans cet article-là, il faut être bien plus critique envers son œuvre, ses choix et ses actes. Et c'est ce que vous retrouverez dans « Ô Simone » de Julia Korbic, édition « La ville brûle sur papier ». Mais c'est aussi, là, c'est un... Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est malheureusement pas ni le deuxième sexe, ni la force de l'âge, ni les mémoires d'une jeune fille rangée. C'est dommage, mais pour l'instant, ça n'existe pas encore en audio en français. J'ai trouvé beaucoup de livres en audio de Simone de Beauvoir traduits en anglais et lus en livre audio en anglais. Et j'ai trouvé deux bouquins importants. Le premier, c'est La femme indépendante, lu par Florence Viala. C'est une production Gallimard de la collection Écoutez lire. Et le second, c'est La femme rompue, qui en fait est un monologue qui a été interprété à Paris et enregistré. La comédienne qui prêtait sa voix à ce texte est Evelyne Bouix. Et c'est une production Jacques Canetti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit montage avec deux extraits de ces deux livres-là qu'on retrouve en audio sur les plateformes et c'est donc signé Simone de Beauvoir.
L'attitude de défi dans laquelle se crispent les Américaines prouve qu'elles sont hantées par le sentiment de leur féminité. Et en vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles? Peut-être sont-elles destinées à disparaître? Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent, avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question, qu'est-ce qu'une femme? L'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Si je veux me définir, je suis obligée d'abord de déclarer « je suis une femme ». Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi.
Des famines ? Il n'y en a pas assez. Ils deviennent de plus en plus nombreux, même le ciel est infesté. Bientôt, ils se bousculeront dans l'espace, comme sur les autostrades. Et la Lune, on ne pourra pas la regarder sans penser que des cons sont en train d'y dégoiser. Je l'aimais, la Lune. Elle me ressemblait. Et l'on se salit, comme ils salissent tout. C'est affreux, ces photos. Une pauvre chose poussiéreuse et grisâtre que n'importe qui pourra fouler aux pieds. J'étais propre, pure, intransigeante. Dès l'enfance, j'ai eu ça dans le sang. Ne pas tricher. Je la vois, cette drôle de môme, dans sa petite robe toute chiffonnée. Maman me soignait si mal. Et la dadame qui s'essure. Alors on lave sur tes frères. Je déteste. Le froid, les yeux de maman. Donc j'ai été jalouse, c'est normal. Tous les livres le disent. Non, l'étonnant, ce qui me plaît, c'est que je l'admire. Pas de concession, pas de comédie. Je me retrouve dans cette petite bonne femme. Je suis propre, je suis vraie, je joue pas le jeu. Ça les fait gueuler. Ils n'aiment pas qu'on voit clair en eux. Ils veulent qu'on croie leurs belles paroles. Ou du moins, qu'on fasse semblant.
La femme rompue, monologue joué au théâtre à Paris par Evelyne Bouix, texte de Simone de Beauvoir. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été à l'écoute de cette émission des livres plein les oreilles, que ce soit Canal M, ACKVL ou par balado. Merci à Jean-Sébastien Laliberté qui était en régie aujourd'hui et surtout merci à mes invités du jour, Sonia Sarfati, Bruno Rodi et Faline Beaubier. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une belle semaine et mettez-vous en plein des livres plein les oreilles. Salut.